membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé que c'est marqué go sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, il est 19h, c'est le Canu Info du vendredi. Vous avez sûrement reconnu le générique. Ce soir au menu, qu'est-ce qu'il y a?
Oui, mais alors pour commencer, on va aller du côté du ministère du droit des femmes qui nous a pondu une application pour nous expliquer que le problème du sexisme, c'était pas qu'on était dans une société patriarcale, c'était juste et uniquement un problème de manque de confiance en soi des femmes. Et donc pour résoudre ce problème de manque de confiance en soi, et ben faut avoir un smartphone et télécharger l'application.
Voilà, ensuite on ira en Argentine retrouver nos reporters envoyés, comme tous les vendredis, une fois tous les deux vendredis plutôt, ils nous envoient un reportage, cette fois-ci sur les assemblées populaires.
C'est ça, donc oui, c'est deux camarades qui sont en vadrouille par là-bas, donc ils nous parleront d'une assemblée populaire qui s'est constituée dans une petite ville qui à l'origine luttait contre la mine qu'il y avait à côté. Et qui, au fur et à mesure, a élargi les plateformes, toutes les luttes, ce qui concerne la privatisation des biens communs et plus globalement le capitalisme et tout ce qui touche à l'exploitation en général. Aussi, ça passe par le droit à la terre, l'acquisition de l'agriculture, tout ça. Et donc voilà, c'est un reportage qui durera 28 minutes.
Et qui est très bien fait.
Très bien.
Alors ensuite, on enchaînera, on reparlera rapidement du projet de traité transatlantique dont on a sans doute déjà parlé à l'antenne, envisagé pour 2015, juste après les élections européennes. Donc projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne, l'Amérique et peut-être même élargi à l'ALENA, donc au Mexique et au Canada. Ensuite, on parlera.
Et puis, on parlera ensuite des mineurs dans les prisons et entre autres de leur maltraitance et donc des témoignages de Jean-Marie Delarue, qui est le contrôleur général des lieux de privatisation et des libertés. Bon. Et puis après, on rebondira du coup sur des Syriens, des réfugiés syriens en Seine-Saint-Denis qui sont dans une situation plutôt précaire. Suite à la fermeture d'un parc.
Puis après, on ira en Turquie, où le Premier ministre Erdogan a présenté ses condoléances envers les petits-enfants du massacre arménien, sans toutefois toujours reconnaître le génocide. Donc on fera un petit point là-dessus.
Et ensuite, fidèle à la rubrique insolite, on vous a gardé sous le coude un petit sujet dont on ne dévoilera pas le secret. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'agenda de la prochaine semaine.
Et donc voilà, pour commencer, on vous a dit qu'on allait vous parler du ministère du droit des femmes. Donc on sait qu'il est souvent coutume, face aux luttes contre les discriminations, quelles qu'elles soient, de les dépolitiser. Ça veut dire que, par exemple, quand on va parler de viol, on va dire que c'est l'œuvre de quelques désaxés ou de malades mentaux. Quand on va parler de discrimination à l'embauche, on va dire que c'est juste quelques PDG qui sont sexistes et qui sont représentants de rien du tout. Et quand on va parler d'inégalité salariale, on va dire que c'est le problème de manque de confiance en soi des femmes. C'est quelque chose qui marche un peu avec d'autres types de discrimination, par exemple... Quand on parle du racisme, on va dire que c'est l'œuvre de quelques extrémistes, mais que la France, elle est pas raciste. Si on parle de l'homophobie, pareil, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, on va dire que c'est l'œuvre d'une petite minorité, mais que la France, elle est pas homophobe. Alors, penser comme ça, dire toujours que c'est la faute de quelques individus, ça a un peu des avantages. Par exemple, ça veut dire qu'en résumé, le groupe dominé est presque autant responsable de son sort que celui qui les discrimine. Ça sert aussi à éviter à nos politiques d'engager une quelconque action collective, puisqu'en fait, il suffirait aux individus de se prendre en main pour résoudre le problème. Et donc, le ministère des Droits des Femmes nous rappelle cette évidence. Quand même, les femmes, ils sont un peu pour quelque chose dans cette histoire de discrimination. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit le ministère du Droit des Femmes ? Je cite « Savez-vous en effet que les différences de confiance en soi entre femmes et hommes peuvent expliquer jusqu'à 4,5 des 25 points de l'écart salarial ? Toutes les études sont concordantes. L'une d'elles montre que les hommes sont 9 fois plus enclins à demander une augmentation de salaire que les femmes. » Face à ce problème, la solution, ce serait donc d'enseigner la confiance en soi. Et donc, qu'est-ce qui est mis en place ? Le ministère, il est allé voir une agence spécialisée dans le jeu en ligne et le pari sportif pour pondre une application. Oui, c'est donc une agence dans le jeu en ligne et le pari sportif qui vont régler le problème du sexisme. Donc, l'avantage de ce genre de choses est que cela coûte pas cher, contrairement par exemple de s'attaquer aux entreprises. Et cela permet une jolie conférence de presse, et surtout, cela fait d'un problème social majeur une affaire de comportement individuel facile à régler. Et donc, cela tombe bien, puisque beaucoup de femmes sont déjà totalement persuadées que ce qu'elles peuvent subir en matière de sexisme est de leur faute. Donc, le ministère du Droit des Femmes enfonce le clou en leur envoyant ce message très positif. Si tu avais eu confiance en toi, cela ne serait pas arrivé. Alors, vous me direz, au fond, quel est le problème ? Parce que oui, en effet, les femmes sont souvent élevées à moins demander, à avoir moins confiance en elles, à sous-estimer leur valeur. Oui, le problème, c'est que cette évidence est devenue la solution pour tout. Donc, plus besoin de mettre des amendes aux entreprises, plus besoin de faire des lois contre la discrimination, plus besoin de conventions avec des entreprises, plus besoin de mise en demeure, plus besoin de sanctions. Il suffirait de dire qu'en insufflant aux femmes un peu de confiance en soi, les choses iraient beaucoup mieux. Comment est-ce qu'elle marche alors, cette application ?
Alors donc, tout d'abord, cette application, elle est accessible uniquement sur les smartphones, malheureusement. Du coup, bon, faut déjà être un minimum un petit peu riche pour pouvoir prendre en charge ses droits en France, apparemment. Et si vous voulez aller la voir, du coup, elle est sur femmes.gouv.fr. Elle s'appelle Leadership pour Elle. Et on y trouve des conseils d'abord de langage corporel, de développement personnel, où on nous dit il faut sourire un peu, être avenante, mais pas trop, pour ne pas envoyer le signal qu'on peut être une proie facile. Ensuite, plus loin, on a des conseils, par exemple, le plus sûr est, sans raideur excessive ni froideur exagérée, d'aborder un sourire aimable nécessaire pour créer un bon climat de dialogue, tout en posant ses limites. Ensuite, l'application nous explique comment réagir à des agressions, des agressions sexistes, donc en entreprise. Et là, on cite, restez subtil et mesuré, essayez de recadrer sans blesser, ne cherchez à humilier la personne au risque de la transformer en ennemi déclaré et de devenir un monstre soi-même. Donc là, on nous dit bien que, surtout, il faut réagir gentiment aux attaques sexistes parce que sinon on risque d'être plus dangereux que l'agresseur lui-même, ce qui est quand même assez, assez intéressant à lire. Et ils nous disent un peu plus loin encore carrément, un comportement trop vindicatif sera beaucoup moins accepté chez une femme que chez un homme. Et donc, en cas de désaccord, soyez amicale, chaleureuse, à l'écoute et surtout pas agressive. Voilà. Plus loin, on a des conseils plus généraux de développement personnel, un peu qui pourraient être issus d'un bouquin de développement personnel, où ils nous disent qu'il faut aller chercher la leader qui est en vous, que vous dit votre voix intérieure, écrivez les pensées que vous entretenez à propos de vous-même. Sont-elles plutôt positives ou négatives ? Voilà, donc des conseils comme ça sur la pensée positive. Ensuite, on a un passage carrément croustillant sur savoir faire face au sexisme, et nous disent là que il faut que les femmes rappellent bien aux hommes qu'ils sont des pionniers depuis toujours. Là, je cite toujours le ministère du Droit des Femmes, qui disent les femmes en sont là aujourd'hui en partie grâce aux partenaires masculins à la maison et au travail qui les ont accompagnées pendant et pour les révolutions des 50 dernières années. Il est encore rare que derrière une femme à succès ne se cache pas un homme éclairé, progressiste. Voilà. Donc si vous voulez aller voir plus de conseils comme ça éclairés pour savoir comment rester une femme moderne au 21e siècle, c'est sur Leadership pour elle sur femme.gouv.fr.
Donc une application smartphone pour lutter contre le sexisme, digne d'anticipation, tout ça un peu. Donc maintenant on passe à... Bon, on va écouter le petit reportage là dont vous avez parlé, qui parle des assemblées populaires en Argentine, d'une assemblée populaire en Argentine.
Tardes son miles en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la campaña se llama Millones contra Monsanto, la empresa transnacional de origen estadounidense que recibe el repudio de todos los países de la región.
Gulumapu y Puelmapu para nosotros, el avance ha sido terrorífico con respecto a los convenios internacionales de los distintos gobiernos con esta multinacional que es Monsanto. Para nosotros es terrible porque están violando todos nuestros derechos, como por ejemplo semillas nuestras nativas que ellos han hecho, nos han robado y han hecho transgénicos.
Para denunciar la malversación de la semilla, de la vida, la contaminación de nuestros alimentos, el éxodo de nuestros campesinos, la violencia y la criminalización de la condición de campesino y de originario.
Las y los que luchan.
Celles et ceux qui luttent.
Un viaje de dos meses.
Un voyage de deux mois.
En Argentina y en Chile.
En Argentina y en Chile.
Para encontrar compañeros y compañeras que luchan cada día.
Pour rencontrer des compagnons et compagnonnes qui luttent chaque jour.
Para entender la historia y la realidad de estas luchas.
Pour comprendre l'histoire et la réalité de ces luttes.
Para aprender de ellas.
Pour apprendre d'elles.
Un programa de Radio Canu.
Une émission de Radio Canu.
Alors ça y est, on est sorti des grandes villes et on est allé un peu plus au nord d'Argentine dans un petit village, Chilecito. Enfin, une petite ville quoi. Là-bas, on a rencontré Yeni qui est enseignante. Yeni, en plus d'être enseignante, elle fait partie d'une assemblée populaire comme il en existe dans de nombreuses villes d'Argentine. C'est l'assemblée de Chilecito. Celle-là, elle est née en 2006. Elle était composée à la base essentiellement d'enseignantes, mais en grandissant, elle s'est diversifiée. La volonté première de cette assemblée, c'était de lutter contre l'exploitation d'une mine à ciel ouvert, juste à côté. Puis elle s'est étendue à plein de mouvements contre la privatisation des biens communs, contre la colonisation des esprits et contre le capitalisme. Aujourd'hui, à Chilecito, c'est une cinquantaine de femmes, d'ouvriers, d'artistes et de jeunes qui viennent régulièrement aux réunions. Et c'est parfois plus de 5000 personnes qui vont participer aux actions décidées par l'assemblée. Cette assemblée, en plus de tout ça, elle soutient les luttes aux alentours. Des luttes contre l'exploitation de l'uranium, contre la fracture hydraulique pour le gaz de schiste, contre les pesticides ou contre Monsanto. Elle soutient aussi les mouvements de paysans, d'accès au droit à la terre et les luttes des peuples originaires. Yeni nous raconte les débuts de la lutte contre la mine.
Je suis enseignante et je travaille dans un collège à Famatina.
En 2006, nos llamó mucho la atención la presencia de camionetas.
La presencia de 4x4 nos ha beaucoup interpelé.
La inscripción
Bashigold sur les portes.
En las puertas. Entonces empezamos a averiguar quiénes eran y qué estaban haciendo en nuestro pueblo.
On se demandait ce qu'ils faisaient dans notre village.
Que nos informábamos más.
Y chaque fois qu'on s'informait un peu plus.
Más nos alertábamos de los.
On était de plus en plus alertés par les désastres.
Estaba haciendo en el mundo.
On se voyait ce que faisait Mashigold.
Ese grupo de docentes que en principio fuimos.
Au début, on était un groupe de professeurs. On était 8. On connaissait rien de la mine. On ne savait pas trop. On s'est dit que si ça apportait du travail et du bien-être et une proposition de bien-être communautaire et du travail pour les gens, bah, ce serait bienvenu. Mais après, on s'est rendu compte que ce serait tout le contraire. Ils allaient prendre les biens communs.
Para nuestros pueblos, sino todo lo contrario, venían a saquear los bienes comunes, en este caso los minerales.
Qu'ils allaient prendre les minerais.
Comenzamos a transmitir esta información que teníamos a los vecinos.
toutes les informations qu'on avait. On l'a dit à nos collègues, à nos professeurs, aux élèves, aux gens de la communauté. On a commencé à se réunir. La première réunion, on a été 8, puis on a été 15. Et après, de plus en plus de gens. On a décidé de s'organiser en assemblée. Pourquoi les assemblées ? C'est une dynamique d'organisation horizontale où tous et toutes ont la possibilité de prendre la parole, de prendre des décisions, de dire leurs opinions, d'avoir de la voix. Et c'est ça qui a marché. On a senti à ce moment-là qu'on ne voulait pas de représentants qui représentent nos intérêts, ni politiques, ni religieux, ni syndical, ni d'aucun type. On voulait que ce soit juste nous, juste le peuple qui se défend lui-même, qui décide pour lui. L'Assemblée de Famatina s'est créée en 2006. Après, en 2007, s'est créée l'Assemblée de Chilecito. Après, en 2007, il y a eu 12 assemblées dans d'autres provinces. On a commencé à se mobiliser par l'information. Avec l'information, on a utilisé beaucoup de savoirs scientifiques et aussi on a récupéré des savoirs ancestrales, des savoirs traditionnels. Et des savoirs communautaires en nous demandant qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour nous, comment on veut vivre, de quoi veut-on vivre. Ça a été très important dans ce processus, les témoignages des voisins de San Juan et de Catamarca. Eux, ils avaient déjà eu des mines. Et du coup, on a voulu savoir l'opinion des gens et ce qui se passait dans leur communauté. Ça a aidé à ce que nous, on décide de ne pas être minier, de ne pas travailler dans la mine, de continuer à travailler avec l'agriculture, l'agriculture traditionnelle à petite échelle,
et défendre notre forme de vie, notre souveraineté alimentaire.
De défendre notre culture, notre identité.
Et commencer à récupérer
notre territoire de là, de ce point de vue-là. Le saccage était intégral. Ils sont venus nous voler notre identité, nos ressources,
nos
formes de vivre, nos moyens de sociabilité. On a parlé après avec les députés, avec les curés, avec les gouvernants, avec tous.
Et on s'est rendu compte
qu'ils ne représentaient pas nos intérêts, mais ceux du capital. Les intérêts économiques. On s'est rendu compte qu'on luttait contre un monstre. Et qu'on ne savait pas au début ce que c'était un monstre. On a eu recours à la justice. Et la justice a fait justice, entre guillemets, pour les biens du capital et pas pour nous.
Nuestros pilares más fuertes fueron la movilización.
Nos points forts, ça a été la mobilisation.
El decidir todo en asambleas.
Et de décider tout en
asamblée. Y ahí surgieron muchísimas acciones.
Et de là, sont nées beaucoup d'actions.
Llevar información a través de panfletos. à las comunidades.
On a donné des informations, on a donné des tracts, on a parlé avec les voisins, aux gens, on a fait des rencontres dans les centres culturels, il y avait beaucoup d'art, des rencontres de musique, des ateliers pour les enfants.
Todo lo que sea documentales y películas,
beaucoup de documentaires et de films qui faisaient partie de tout ce processus
y mucha educación popular.
Et beaucoup d'éducation populaire.
Fuimos creciendo también en el proceso a una decolonización.
Dans le processus, on a aussi eu une décolonisation. Une décolonisation des pratiques, des savoirs, une décolonisation des pensées. Et on a lutté contre nos propres contradictions qu'on avait et qu'on a toujours. La contradiction d'avoir, d'être né et d'avoir grandi dans un peuple colonisé. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a beaucoup discuté entre nous. Il y a eu des diversités d'opinions. Et de fait, dans les dernières années, cela a mené à une rupture de l'Assemblée.
Porque hay sectores asamblearios que todavía creen.
Il y en avait qui croyaient qu'on pouvait discuter le pouvoir dans, au sein des partis politiques. Ils sont entrés dans des partis politiques et ils se sont présentés aux élections.
En un partido político que se formó.
Pour avoir le pouvoir dans un parti politique qui s'est formé.
Et
il y en a qui ont pris un autre chemin.
Et nous, on pense que c'est le pouvoir populaire
qu'on doit alimenter et qui doit grandir. On
ne
croit pas qu'il y a de parti politique ou d'État qui puisse nous défendre. Alors ça a été et ça reste très difficile. Parce que par exemple à Chilecito, il y a deux assemblées. Une qui est dans les partis politiques et une autre non. À Famatina c'est pareil, la capitale aussi. On respecte les compagnons qui ont décidé de se mettre dans les partis politiques. Mais nous on continue de travailler de l'autre côté.
Comprendre
qu'il y a un modèle de production et de développement qui nous opprime.
Non seulement des biens communs comme les minéraux, mais aussi d'autres biens communs.
Qui nous prend les biens communs, pas seulement les minerais, mais aussi l'eau, l'air, l'éducation, la santé, le travail digne, la capacité de nous organiser, la capacité à s'autodéterminer. Et en ce moment, notre assemblée travaille beaucoup à aider l'assemblée de Nonogasta, qui s'appelle Retamo, et qui organise l'assemblée des assemblées, le YAT. La YAT est l'union des assemblées ciudadanas, des assemblées citoyennes. Alors, il y aura des coopératives, des mouvements sociaux, des médias alternatifs d'Uruguay, d'Argentine et du Chili. Là, ça va être la 21e édition du WAT. Et ça va être ici, à Nonogasta.
Donc,
on prépare tout pour recevoir des compagnons qui viennent de tout le pays et des pays à côté.
C'est l'espace populaire
et l'espace de citoyenneté en Argentine qui maintient son autonomie et sa souveraineté. L'axe principal de la lutte est la décolonisation contre le modèle d'expropriation que le capitalisme et le néolibéralisme développent.
Yeni, elle nous a expliqué aussi comment les assemblées se nourrissent de multiples luttes et entrent en lien avec des mouvements de plein de villes du nord du pays, mais aussi avec les luttes mapuche du sud. La lutte des peuples originaires, et notamment celle des Mapuches, qu'on appelle couramment peuple indigène, enrichit la pensée de cette assemblée. Car pour eux, ceux et celles qui ont résisté à la colonisation pendant plus de 500 ans ont beaucoup à transmettre en termes de savoir traditionnel et de défense du territoire. Pour eux, le territoire, c'est pas qu'une terre aussi. C'est aussi une dimension culturelle, des croyances et des manières de vivre ensemble. La lutte la plus importante de l'assemblée à laquelle a participé Yeni a été la lutte contre l'implantation d'une mine à ciel ouvert à Famatina en 2007.
On a décidé de faire une mobilisation, de couper les routes, de couper les rues. Et en 2007, on a décidé de couper la seule route qui allait à la mine. On a décidé de s'installer là-bas pendant un an, 24 heures sur 24, en tournant. Les familles et les voisins de Chilecito et de Famatina sont venus. Cette mine était en exploitation depuis 2 ans. Donc, il y avait déjà un campement. Et nous, on a coupé la route pour qu'ils ne puissent pas apporter des combustibles et de la nourriture pour les employés. Alors, ils ont dû descendre. Et quand ils descendaient, on ne leur permettait pas de remonter. Il y avait peu d'employés, heureusement, peu d'employés de la région. Ils venaient d'autres régions. Bien sûr, il y a eu beaucoup de répression. Chaque fois qu'on faisait une mobilisation, sur le blocage de route, ils essayaient de nous déloger. Il y avait de la répression et tout. Des séquestrations, des persécutions. Beaucoup de compagnons ont perdu leur boulot. Moi, j'avais la police à chaque fois que je sortais. Ce qu'il y a de bien, c'est que devant cette criminalisation de la protestation, nous, on a dénoncé. On a organisé des réseaux de protection avec les associations de droits humains. Ils étaient présents d'une certaine manière au téléphone. Quand un compagnon ou plusieurs étaient prisonniers, un compagnon prévenait la OAT. Et alors, ils appelaient la police et le juge qui recevait 300 appels qui demandaient « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?»
Alors voilà, la mine, elle n'aurait pas été située à Chilecito, mais dans la Sierra. En fait, c'est les montagnes, juste à côté, à Famatina, c'est à une trentaine de kilomètres. À Famatina, il existe déjà une mine qui était abandonnée là-bas. Elle avait été exploitée au début du siècle par les Anglais et les Allemands. À ce moment-là, c'était une mine classique, une mine souterraine, où l'on extrayait de gros morceaux d'or de la roche à la pelle et à la pioche. Le projet de mine, le nouveau projet de mine, aurait été différent. Il aurait s'agi d'une mine à ciel ouvert. D'une méga mine, en fait. Ce procédé, différent de l'ancien, est très polluant. Vu qu'il ne reste plus beaucoup de gros morceaux de minerais dans la mine, dans l'ancienne mine, les entreprises vont sortir des énormes quantités de terre où il y a de petites parties de minerais. Et pour isoler ces minerais, ils forment de gigantesques tas de terre qu'ils traitent avec un mélange d'eau de source et de cyanure. Les entreprises, bien sûr, elles vont prétendre que le mélange eau et cyanure s'évapore au soleil et ne pollue pas. En réalité, il en résulte une grande pollution des eaux qui tue toute vie dans les cours d'eau et empoisonne les habitants des vallées alentours. En 2012, une entreprise canadienne a voulu à nouveau exploiter la mine. Mais là aussi, il y a eu un grand blocage de route. Il s'est appelé El Corte de la Dignidad, le blocage de la dignité. Celui-ci a mené le gouvernement à renoncer au contrat avec l'entreprise canadienne. Si les entreprises ont disparu physiquement de Chilecito et de Famatina, le lobby minier reste très présent en Argentine.
Quand on a fait le coupage de route en 2007, on était très peu. Des fois, on était à chaque tour 2 ou 8. Et le week-end, un peu plus. Et la police venait, mais elle nous délogeait, mais nous, on revenait. Et chaque fois qu'il y avait une menace de police, on appelait et tout le village venait. Après, en 2012, le blocage de 2012, dans ce lieu, ça a été incroyable.
Il y a eu énormément de gens. Il y avait 2000 personnes, il y avait 300 tentes à chaque coupage de route. À chaque coupage de route, ça grandit. Là, il y en a un à la Rioja. À la Rioja, il y a 200 000 hectares de terre détruite. Il y a le thème de la fracture hydraulique dans la cordillère et de l'uranium.
Alors, cette lutte à Chilecito et à Famatina, cette lutte contre la mine a été un succès. On est allé au village de Famatina se balader. Là-bas, il reste des traces de cette lutte qui constitue une fierté pour le village. Des entreprises touristiques vont par exemple proposer des visites du corté de la Dininade. De nombreux tags restent dans le village. C'est des tags où c'est marqué « Famatina no se toca ». On ne touche pas à Famatina. « Agua si, oro no ». L'eau oui, l'or non. « Agua no se vende ». L'eau ne se vend pas. « Famatina no se negocia ». Famatina ne se négocie pas. Les pochoirs sont accompagnés de dessins représentant la vallée ou parfois même avec un peu plus d'ironie Zorro. Yeni nous a aussi raconté les effets des pratiques clientélistes. En fait, les entreprises, elles vont créer de la pauvreté et rendre les gens dépendants au système. Elles menacent de licenciement quand les personnes revendiquent leurs droits. Il y a eu beaucoup de plans sociaux dans la région. Pendant la lutte, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Les personnes, elles sont conscientes de ce que font les grandes entreprises qui exploitent les matières premières. Mais elles ont besoin des salaires précaires donnés par les entreprises. En fait, ces entreprises, comme le dit Yeni, elles vont casser le tissu social, diviser les familles, diviser des amis. C'est la guerre d'une famille contre une autre famille, de laquelle aura accès au travail dans la mine ou dans telle ou telle entreprise. L'Assemblée de Chilecito, elle, contre tout ça, elle se bat avec comme outil l'éducation populaire. Et maintenant, ça fait 8 ans qu'ils réussissent à garder leur vallée, à empêcher l'exploitation de la mine. Cette lutte a permis de favoriser cette organisation en termes d'assemblée, que ce soit pour la santé, l'éducation ou le travail. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui s'organisent. À La Rioja, c'est la capitale de la région, en fait, qui est proche de Chilecito, les jeunes, ils ont pris l'université aux mains d'un gouvernement de droite. Les enseignants, ils ont aussi fait grève ces derniers temps pour avoir un meilleur salaire et dénoncer les conditions d'éducation. Parce qu'il faut savoir que le salaire, dans la région de La Rioja, qui est un peu une région délaissée de l'Argentine, c'était 350 euros dans certaines écoles pour les enseignants. Dans un quartier de Chilecito, il y a aussi des jeunes qui s'inspirent du mouvement des assemblées, qui ont récupéré une ancienne maison de passe, une ancienne maison en fait qui servait à divers trafics plutôt glauques. Et dedans, maintenant, ils font des activités culturelles avec les gens du quartier, dont certains jeunes font partie de ce quartier en fait. Et il y a aussi un projet de radio communautaire dans ce centre culturel. Dans ce centre culturel, on a aussi rencontré une militante d'une assemblée de Nonogasta, en fait. Parce que là-bas, il y a une assemblée qui s'est créée pour lutter contre la pollution. C'est une pollution qui est due à une entreprise de tannerie de cuir qui s'est implantée il y a une vingtaine d'années là-bas. À Nonogasta, on a une situation très grave. Ça fait déjà 30 ans. Avec l'installation de la courtiembre. La courtiembre pour le traitement de ces cuirs utilise différents produits toxiques, par exemple le chrome et des sulfates. Et cela nous porte énormément préjudice parce que ça fait que notre qualité de vie a chuté énormément. Depuis 18 ou 20 ans de travail de la courtiembre, on a vu des problèmes se manifester dans l'organisme des travailleurs. Et à Nonogasta, ça se manifeste avec la naissance d'enfants qui naissent sans développement de certains organes. Par exemple, ils vont naître sans intestin, sans trachée ou sans anus. Il y a des enfants même qui ne naissent pas. Alors, les médecins, ils parlent d'avortement spontané. Mais nous, on dit que c'est des avortements dus à la pollution. C'est une ville de quasi 15 000 habitants. Et le problème principal qu'on a pour le moment à Nonogasta, c'est que la population ne parle pas, ne s'intéresse pas à ça. On est très peu à lutter continuellement. On lutte contre les gens de la courtiembre qui n'ont pas mis en place les moyens pour purifier leur liquide, qui vont le déverser dans un pré de 41 hectares où ils jettent tout sans aucune protection. Et là-bas, ils jettent tous les résidus. Alors, il y a une pollution gazeuse, une pollution dans l'eau, une pollution dans la terre. Ça fait qu'on est très mal, mais ce qui se passe, il y a comme un pacte du silence. C'est une zone en fait où le gouvernement il a entrepris une politique de soumission pour les gens. Ils font des plans de travail payés très peu, c'est 300 ou 400 pesos. Et ça fait que les gens, face à la pression des politiques, ils ne parlent pas. Parce que si la courtiembrée tombe, pour ne pas avoir fait ses plans de retraitement, et ben l'État tombe aussi pour ne pas avoir mis en pratique son pouvoir de police pour la contrôler. Les gens, ils savent ce qui se passe. Ce qui se passe, tout le monde le sait. Parce qu'en plus, c'est impossible de ne pas le savoir. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas un malade, avec des problèmes d'allergie respiratoire, avec des problèmes gastro-intestinaux, avec des cancers. Dans un pâté de maison, il y a 6 cas de cancer, par exemple. C'est énorme comme pourcentage. Mais le thème, c'est politique. C'est politique parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Les gens, ils dépendent des plans sociaux que le gouvernement donne, alors que les mêmes politiciens qui font partie, qui habitent à Monogasta, sont ceux qui s'occupent de faire pression pour ne pas que les gens se mobilisent. Et d'un autre côté, la courtiembrée, l'entreprise, a un discours qui dit que s'il se fait quelque chose, la source de travail va se fermer. Alors c'est difficile, très difficile, mais tout le monde sait de quoi il s'agit.
Cette lutte contre la courtiembrée est difficile, mais l'Assemblée continue d'exister et la résistance se construit au jour le jour. Toutes les assemblées ne réussissent pas à obtenir ce qu'elles réclament, mais comme nous le disait Yémi, ce n'est jamais perdu, car même si telle ou telle revendication n'est pas obtenue, ce mode d'organisation horizontale en assemblée crée de nouvelles solidarités et sème à droite, à gauche. On a fini notre visite des assemblées qui se sont créées autour des sujets environnementaux par l'assemblée El Algarabo d'Andalgalá. Là-bas, c'était vraiment la campagne. Les habitants ont lutté contre une mine en bloquant une route. Ça n'a pas suffi à faire fermer la mine, mais ça a ralenti la création d'autres mines. Les entreprises avaient réalisé un projet pharaonique, couvrant une centaine de sites d'exploitation et prévoyant la destruction du village et le déplacement des habitants pour raisons économiques. La répression a été très violente et pourtant, l'assemblée existe toujours et les habitants restent mobilisés. Sur le lieu où le coupage de route avait lieu, une radio communautaire a été créée. On y est allé pour les 3 ans d'anniversaire. C'était un petit paradis entouré de déserts et de bosquets. Pour cet anniversaire, ils ont réalisé un marathon d'émissions avec des émissions du lever du jour jusqu'au tard dans la nuit. Il y avait aussi de la musique et des repas qu'on partageait en discutant. Un petit coin de paradis donc, où on se réinvente le vivre ensemble et la solidarité. On vous laisse avec un des chants d'une militante de la radio. Elle l'a fait en direct pour l'anniversaire. Elle y parle de la lutte contre la mine, les multinationales et l'État oppresseur.
Vous êtes toujours sur les ondes rebelles de Radio Canu 102.2, c'est bientôt 8h-20, vous êtes donc sur le Canu Info du vendredi.
Et on va revenir tout de suite sur le TAFTA, le traité de libre-échange de la zone transatlantique, dont on parle relativement peu dans les médias classiques, beaucoup plus à Radio Canu, mais on enfonce quand même le clou. Donc, ce traité TAFTA qui a été rebaptisé récemment TTIP, type du nom du nouvel acronyme, c'est-à-dire Partenariat Transatlantique de Commerce et d'Investissement. C'est donc une négociation entre l'Union Européenne et les États-Unis qui vise donc à créer cette zone de libre-échange envisagée pour 2015, juste après les élections européennes. Si le projet aboutit, il a pour but de constituer un marché commun de 820 millions de consommateurs, c'est-à-dire la plus importante zone de libre-échange jamais créée, couvrant près de 50% du PIB mondial, la moitié des richesses créées dans le monde. Alors, il y a une origine à tout cela, hein, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Dans les années 90, déjà, les membres de l'OCDE, c'est-à-dire à peu près les mêmes partenaires que ceux qui négocient aujourd'hui le TAFTA, avaient pensé à créer un accord multilatéral d'investissement qui s'appelait à l'époque AMI, négocié lui aussi secrètement et qui avait été abandonné suite à la divulgation in extremis du projet. Il y a eu un retour d'offensive donc plutôt récemment, en 2009, donc plus de 12 ans, disons, après la première initiative qui avait capoté. En 2009, donc, le Parlement européen, où siègent les représentants des citoyens européens, et le Congrès américain, invitent eux deux à la création d'un grand marché transatlantique impliquant d'une part la liberté de circulation des biens, des capitaux, des services et peut-être même des travailleurs. Alors, d'ores et déjà, il y a eu 4 rounds de négociations rassemblant chaque fois une centaine de personnes. Ces négociations ont eu lieu dans les capitales respectives de l'Union européenne et des États-Unis, à Bruxelles et à Washington. Le traité devra être validé en 2015 pour le côté européen par les 28 États membres. Donc d'abord, les 28 États membres vont tous voter, donc sans doute les parlements, hein, et les parlements nationaux. Et ensuite, l'Union européenne, le Parlement européen, devra à son tour valider cet accord avant qu'il soit mis en place. Alors, quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'on en sait de ce traité transatlantique? Alors, les sources sont rares, parce que pour l'instant, tout ceci est tenu plutôt secret, on en reparlera dans un instant. Ces sources, elles ont fuité depuis un an, soit par Internet, soit dans la presse. Et ce qu'on en sait, ça se tient surtout en 3 points. D'une part, la suppression des tarifs douaniers, comme dans n'importe quelle zone de libre-échange. D'autre part, l'harmonisation progressive des réglementations de part et d'autre de l'Atlantique. On reviendra dessus, ça c'est central. Et puis, la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends entre les entreprises et les États. Alors, concrètement, qu'est-ce que tout ça veut dire? L'harmonisation progressive des réglementations et de la reconnaissance mutuelle des règles et normes en vigueur. Ça, c'est les textes qui ont fuité qui l'annoncent, c'est-à-dire des négociations qui portent pas vraiment sur les droits de douane, parce que les droits de douane sont aujourd'hui relativement faibles entre l'Union européenne et les États-Unis, mais plutôt sur les normes des produits, des marchandises qui seront échangées, sur les réglementations et les autres barrières qui sont dites non tarifaires. Donc c'est surtout là-dessus qu'il y aura harmonisation. Alors, parmi les critiques, celles-ci peuvent les critiques qui ont d'ores et déjà été données sur ce projet, on peut en retenir 3 types des critiques sur la forme. D'abord, puisque ce sont des négociations secrètes, à savoir quand même qu'il y a des délégations américaines qui ont été, à chaque réunion dont j'ai parlé tout à l'heure, envoyées. Plus de 600 consultants ont été mandatés par les multinationales pour faire pression pendant ces négociations, à savoir également que le pouvoir politique a la volonté, dans la plupart des États qui vont entrer dans cette zone de libre-échange, a la volonté d'accélérer au maximum les prises de décision afin que cette zone de libre-échange soit mise rapidement en place. Le Canard enchaîné rappelait il y a quelques mois, par exemple, que François Hollande était soucieux d'aller au plus vite pour éviter tout blocage, comme ça avait été le cas dans les années 90. Voilà. Alors, l'autre point crucial qu'il faut ici rappeler, c'est que la possibilité, une fois que ce traité sera voté par l'Union européenne et les États-Unis, donc en 2015 a priori, possibilité pour les entreprises, principalement les multinationales américaines installées dans l'Union européenne ou les multinationales de l'Union européenne installées aux États-Unis, d'attaquer les États. Si les États, par leurs lois, par leurs directives, entravent le commerce de ces multinationales, eh bien celles-ci, sous couvert d'harmonisation, auront le droit de porter plainte devant des tribunaux de commerce spéciaux et de porter plainte directement devant les États. Alors concrètement, par exemple, on peut penser que si l'Union européenne et les États de l'Union européenne sont toujours hostiles à l'importation d'OGM, eh bien des multinationales pourront attaquer les États de l'Union européenne parce que ceux-ci n'auront pas harmonisé leur politique sur ce point. Voilà, même chose pour les cigarettiers, par exemple. Y compris donc quand c'est quand les lois des États sont dans le cadre d'une politique de santé publique. Voilà, bref, sous couvert d'harmonisation, ce traité permet un retour en force, en fait, de la déréglementation, 7 ans après la crise financière mondiale, puisque de fait, tous les secteurs, même ceux pensés comme non marchands, seront a priori touchés. Liste non exhaustive pour finir de ces secteurs qui seront a priori touchés. Le salaire minimum, les normes sanitaires pour l'alimentation, on en a parlé, la protection de l'environnement, évidemment, puisque les lois aux États-Unis sont pas exactement les mêmes que dans les pays de l'Union européenne, la protection des données numériques personnelles, la réglementation de la finance, le soutien des États pour l'accès à tous, à l'éducation ou encore à la santé. Voilà pour ce petit point sur ce traité transatlantique.
Maintenant, on va aborder une des faces cachées de la société, les prisons, les mineurs dans les prisons. Le contrôleur général des lieux de privatisation de liberté, Jean-Marie Delarue, pointe des violences subies par les mineurs en prison et souligne la passivité de l'administration et l'absence de surveillants. Dénonciation de violences au quartier des mineurs d'une maison d'arrêt de l'Hérault. Revendication de cellules individuelles, le contrôleur général des lieux de privatisation et de liberté, Jean-Marie Delarue, pousse ses derniers coups de gueule avant de rendre son tablier le 13 juin. Je cite, donc c'est Jean-Marie Delarue qui parle, à Villeneuve-les-Maguelones, l'essentiel de ces violences a lieu hors des cellules, lors des déplacements et dans la cour de promenade, constate M. Delarue qui a relevé 24 violences graves dans la cour entre le 1er janvier 2013 et le 11 février 2014. Parmi les agressions, 9, soit plus d'un tiers, impliquent des enfants arrivés la veille ou l'avant-veille. Détaille le contrôleur qui évoque un rite de passage et constate qu'à une exception près, aucune plainte n'a été déposée. Le plus souvent, en fait, il s'agit de tabassage en règle, des témoignages relatant notamment un nez fracturé et une perte de conscience de plusieurs minutes. Face à cela, dit-il, le personnel pénitentiaire apparaît démuni. Les procédures d'intervention des surveillants lourdes et lentes, tout comme les procédures disciplinaires. Dans les quartiers pour mineurs ou les établissements pour majeurs, les surveillants ne sont jamais présents dans la cour au moment des promenades, et ça pour des raisons de sécurité. Les soignants qui ont à connaître des effets de violence ne souhaitent pas être liés à d'éventuelles suites judiciaires. Les enquêtes se heurtent au silence des victimes et de leurs parents, déplore-t-il, constatant une forme de résignation. Ce sentiment ne peut être admis, faute de quoi l'enfant va considérer que l'autorité, c'est celle qui s'exerce avec le poing. Dans ses recommandations, Jean-Marie Delarue réaffirme la nécessité de procédures, d'interventions beaucoup plus promptes, d'une éducation au respect mutuel et d'une prise en charge des enfants en souffrance. Le contrôleur revient aussi sur la question de l'encellulement individuel dans les établissements pénitentiaires, inscrit dans la loi depuis près de 140 ans, mais qui n'a jamais été appliqué. Voilà en ce qui se concerne, du coup, les prisons et les mineurs.
Et maintenant, du coup, un petit peu de musique.
Il sera
toujours 4 heures du matin, sur une plage standardisée. Au loin dorment les Hollandais, qui sont les seuls à trouver qu'il fait chaud. À ma montre, il est 4 heures moins 2. Je retarde un peu. Il sera toujours 4 heures du matin, quand t'es là où je suis le fou, au joyant, comme de lanterne flottante et promettant le sang. À ma montre, il est 4 heures moins 2, je retarde un peu. Du matin, quand tes mains longues, 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 longues et pleines de rien. À ma montre, il est 4 heures moins 2, je retarde un peu. Il sera toujours 4 heures du matin, dans tes cheveux faisant les va-et-vient, entre la piste et la ruelle, surnaturelle. Le cœur gonflé de ma veine. Les chiens noirs grattent la terre. Allez, 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 yeah, yeah, ah, 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 ah.
Sur la plus rebelle des cadeaux, sur la plus rebelle des radios, Radio Canu, on vient d'écouter un morceau du groupe Front et ses chiens galeux qui s'appelle 4 heures du matin.
C'était super bien.
Bien, bravo.
Et maintenant, la rubrique insolite, la rubrique tant attendue. Alors, aujourd'hui, on va se tourner vers les petits petons. Donc, un fétichiste des pieds a été condamné pour une agression. En effet, cet homme de 54 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme à Belfort pour avoir caressé, léché et humé les pieds d'une septagénaire à son domicile où il s'était introduit de force. Donc cet homme, passablement alcoolisé et sous anxiolytique, n'avait Dieu que pour ses pieds dénudés. À la demande de sa victime qui suffoquait, le fétichiste est allé lui chercher son inhalateur. Et puis après, quand même, hein, il s'est ensuite excusé par téléphone. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, on passe à l'agenda.
Donc l'agenda, tout de suite, on va commencer par ce qui se passe maintenant, à 20h. Il y a deux événements. Il y en a un à la Plume Noire qui est au plus d'Hydrault. Au combien déjà, vous savez, vous ? Non ? Au 8 rue d'Hydrault. 8 rue d'Hydrault, à la Plume Noire, il y a une soirée jeu à partir de 20h jusqu'à, je pense, un peu toute la soirée. Toujours à 20h, donc dès maintenant, allez-y vite si vous n'êtes pas déjà parti. À l'atelier des canulars, il y a un repas de soutien pour aider les personnes incarcérées à cantiner. C'est l'intitulé de cette soirée, il s'appelle c'est Cantine pour cantiner, si je ne me trompe pas. Donc ça durera encore quelques heures, hein. À partir de maintenant, allez-y vite. Voilà pour ce soir, on passe au samedi 26 avril.
Alors du coup, à 15h, de l'autre côté du pont, le collectif CRASH, soit collectif de réflexion et d'action autour des sciences humaines, organise une journée autour du thème de la marginalité. Donc pour resituer l'autre côté du pont, c'est au 25 cours Gambetta, à Lyon 7e. Donc au programme, un théâtre forum à 16h, une projection de paroles de rue à 17h30, à 19h, carte blanche à Pushka qui nous projettera un film de son cru, et à 20h, eh bien, apportez vos instruments car il y a scène ouverte et des textes, pourquoi pas, pour slammer à partir de 22h. Également à 15h, il y a une conférence intitulée « Le sabre et la machette » qui a lieu à la librairie Terre des Livres, au 86 rue de Marseille, à Lyon 7. Donc cette conférence est organisée par l'association Survie, association Survie qui s'occupe beaucoup des relations France-Afrique et surtout qui les dénonce. Cette conférence est assurée par François Graner, si je ne me trompe pas, et c'est consacré au génocide sur le Rwanda. Et enfin, à 15h, donc dédoublez-vous ou faites des choix, il y a la Vélorussion qui est organisée entre autres par la Disco Soupe et les Gaspilleurs. Le principe, eh bien, distribution de denrées issues du gaspillage alimentaire à vélo en sillonnant les arrondissements lyonnais. Alors venez avec votre vélo, déambulez surtout en musique et déguisez en fruits et légumes.
Demain, toujours à 20h, un concert de soutien pour le projet du centre social autogéré aura lieu à Vaise, dans un lieu encore inconnu.
Et une dernière petite nouvelle, alors là on va faire quelques sauts de quelques jours. La journée internationale de la semence, organisée par Cocopelli, le 1, 2, 3 et 4 mai au Mas d'Asil, en Ariège. Donc les journées seront rythmées par des ateliers, une bourse aux semences, des projections de films, etc. Voilà, voilà.
Le Canu Info du vendredi est terminé. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on vous dit à vendredi prochain. Et on vous laisse avec la super émission Noise Pollution qui arrive tout de suite. Words to be within a dimple